Bonjour et bienvenue sur Encore un podcast tech.
Une sélection du meilleur de la tech deux fois par mois.
Alors merci d'abord à toutes les personnes qui ont écouté déjà nos premiers épisodes et qui nous ont déjà fait du feedback. Merci encore. Je ne vois pas beaucoup passer de notes sur iTunes ou Apple Podcast. N'hésitez pas, voilà, ça nous encourage. En tout cas, on prend tout feedback. Surtout les négatifs en vrai, parce que voilà, c'est ça qui nous permet de nous améliorer. Et encore une fois, on vous le dit, notre objectif, c'est de produire une dizaine d'épisodes et ensuite, on fera un bilan. Donc, autant on aura de feedback d'ici cette échéance-là, autant ça nous permettra de savoir si on continue ou pas. Et ce n'est pas un chantage affectif, comme certaines personnes me l'ont dit.
Effectivement.
Alors, Rémi, on parle de quoi aujourd'hui ?
Alors, on vous a sélectionné pas trois sujets, mais quatre sujets. Le premier, c'est une histoire assez troublante sur Amazon qui détruit chaque année des millions d'invendus. Le deuxième, ça va être pourquoi est-ce que il nous faut une page personnelle. Et ensuite, quand on parlera de l'intelligence artificielle, quand elle ne nous aide pas à trouver un job. Et le dernier, ça va être l'outil de la quinzaine, parce qu'on a décidé de vous partager régulièrement des outils.
Et croyez-moi, restez jusqu'à la fin parce que celui-ci va vous être très utile. Ok, du coup, on commence par Amazon, Rémi. Alors, effectivement, ça, c'est un sujet que tu avais évoqué dans une récente newsletter. Et en fait, je suis un peu étonné. C'est que l'histoire, c'est qu'Amazon détruit chaque année des millions de produits invendus. Moi, j'ai un peu l'impression en ce moment qu'on a un scandale par semaine, un bad buzz par semaine sur Amazon. Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci encore ?
Alors, on est plutôt proche de l'énorme scandale. D'ailleurs, je suis assez étonné qu'on n'en ait pas plus parlé. Pour l'instant, c'est assez fixé en Angleterre. En fait, c'est une chaîne anglaise, ITV News, qui est allée filmer en cachette l'entrepôt de Dunfermline en Écosse. Et en fait, ce qu'ils ont découvert, c'est que chaque semaine, tu as 130 000 produits qui sont détruits. Ça va des produits neufs aux produits légèrement utilisés, par exemple, s'il y a eu un retour de client. Et les produits sont vraiment hyper variés. Tu as des livres, bien sûr, sous emballage, des perceuses, des bijoux, des télés, des smart télés, des iPads, des ordinateurs, et le tout neuf et jeté à la benne chaque semaine.
Mais attends, c'est énorme, 130 000 produits et neuf en plus. Mais comment ça se fait que déjà on s'en rend compte maintenant ?
Ben, potentiellement, ça aurait pu durer encore quelques mois ou quelques années. Et en fait, c'est grâce à un whistleblower, donc un ancien employé de cette entreprise qui a révélé l'affaire. Et donc, il est allé voir ITV, j'imagine. Les équipes sont allées enquêter sur place. Elles ont fait de la caméra cachée. Donc, on a des preuves vraiment à charge physique de ce qui se passe. Et en fait, ce qu'ils ont pu voir, c'est que des produits qui étaient emballés, tamponnés d'un à détruire. Et ce qu'ils ont fait également, ça aurait pu être juste à détruire, mais ils ont également suivi les produits qui étaient embarqués sur les camions et ils ont vu que ça allait jusqu'à des centres de recyclage ou des décharges publiques. Donc, certains sont donnés, ça, bon, tant mieux hein, finalement, mais c'est une toute petite part. En fait, sur une semaine où tu as 128 000 produits à détruire, tu en as 28 000 qui étaient donnés. Donc ça, c'est des idées de grandeur plus ou moins.
Et donc, une minorité seulement de produits sont donnés ou revendus. Donc, le reste, tout le reste part à la benne.
Mm-hmm. Ouais, tout à fait.
Et il n'y a pas moyen, en fait. Enfin, déjà, c'est quoi la raison pour laquelle ils détruisent ces produits ? Et est-ce qu'il y a des moyens d'éviter ça ? En termes écologiques, c'est quand même pas
c'est
ouf.
Terrible, quoi. C'est terrible. Et le problème, c'est que dans l'état actuel, on n'a pas vraiment d'autres solutions. Amazon propose un modèle de marketplace. C'est-à-dire que toi, par exemple, ou moi, on peut aller vendre des objets via Amazon. Et donc, Amazon, ce qu'il propose, c'est un service en plus qui va permettre de stocker et de gérer toutes les commandes et toute la logistique pour toi ou moi. En gros, tu leur envoies tes produits, eux, ils vont les stocker et ils vont les envoyer par Amazon. Et donc, toi, t'es finalement tranquille. Bien sûr, tu vas payer pour ce service rendu. Et le problème, et c'est là le cœur du problème, c'est que plus ton produit va rester longtemps en stock, plus l'addition va s'alourdir. Et donc, au final, il y a un moment où tu vas plus perdre de l'argent sur un produit, notamment des produits chers, genre un ordinateur, un iPad. Il va te coûter de l'argent. Donc, au final, ça revient moins cher pour toi ou moi de dire « Ok, Amazon, détruisez-le, parce que comme ça me fait des économies. »
Oui, parce qu'en fait, s'il le renvoie, potentiellement, ça engendre de nouveaux frais.
Ouais. Exactement.
J'imagine que si tu as 1000 télés qu'il faut les renvoyer au fournisseur, ça engage de nouveaux frais. Et le
Ouais.
fournisseur, de toute manière, ça ne réduit pas le problème du stockage. C'est-à-dire
Exactement.
qu'il faut, au minimum, il faut qu'il les restocke pour
Ouais.
potentiellement les renvoyer encore à quelqu'un. Et
Ouais.
donc, ce que tu me dis, c'est que quand on met tout ça bout à bout, ça entraîne en fait des marges déficitaires. Et du coup, c'est plus intéressant pour les vendeurs
Exact.
de ces marketplaces de récupérer les produits en fait.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Et du coup, la solution, c'est ce que fait en partie Amazon. Ils en donnent une petite partie à des associations. Donc pour les produits neufs, c'est bah, finalement c'est la solution assez idéale s'ils n'arrivent pas à vendre. Ou si c'est des iPads, ils peuvent me les filer.
Si.
Mais pour les produits qui sont déjà utilisés, voire inutilisables, là, pourquoi pas les valoriser en allant les recycler. Mais bon, ce qui est gênant, c'est qu'il y avait une grosse partie, je crois si je me souviens bien, c'était jusqu'à 50% des produits qui étaient neufs et qui vont quand même être recyclés ou à la décharge. Et un des problèmes, c'est que finalement, ce que fait là Amazon, c'est pas illégal. Ils ont le droit de le faire. C'est juste un débordement où, d'une manière purement comptable, un produit, un iPad, il a une valeur faciale. Et cette valeur, elle diminue avec le temps. Donc, on n'inclut pas dans ce prix-là l'impact écologique. Donc finalement, quand tu t'en débarrasses, ben, tu arrêtes de perdre de l'argent sur ce produit-là. Donc actuellement, le gouvernement écossais et anglais, ils ont indiqué qu'ils allaient enquêter sur ce problème, mais il n'y a vraiment rien. Donc ça fait à peu près 3-4 semaines que l'affaire a eu lieu, et pour l'instant, il n'y a pas eu de grosses nouvelles à ce sujet-là. Donc par contre, j'espère que ça va faire changer les choses. Ouais.
Parce que c'est monté au plus haut niveau de l'État britannique, hein, cette histoire,
Ah
je crois. Et moi, j'ai une question qui m'est venue à la lecture de l'article. On vous mettra bien entendu les liens en note, comme d'habitude. C'est finalement pourquoi Amazon ne rachète pas aux fournisseurs ses télés, ses iPads, pour les revendre soit en refurb, soit. Est-ce que ça ne serait pas plus intéressant, même pour le fournisseur, ben finalement, de récupérer un petit peu d'Amazon. Amazon, vu qu'ils ont déjà les entrepôts, ils ne paieraient pas plus pour le stockage. Est-ce que ça, tu sais si ça...
Je sais pas, mais au final, ça reviendra au même. C'est juste que le poids du coût des articles, il passerait chez Amazon.
Les
Et donc,
transferts.
Amazon, bah, s'ils n'arrivent pas à les vendre sur leur plateforme, bon, peut-être qu'ils vont pouvoir plus les mettre en avant. Mais tu as un nouvel iPad qui va sortir, un nouvel ordinateur. Et donc, eux, je pense que ça ne sera pas intéressant. Donc, il faudrait trouver une autre manière de les valoriser ou moins produire, peut-être. Tout simplement.
Énorme cette histoire en tout cas. Voilà, comme tu dis, on n'en a pas trop entendu parler, donc on trouvait ça intéressant de le relayer dans cet épisode.
Tout à
Bon,
fait.
ok. Écoute, merci du partage, Rémi. Et de quoi on parle maintenant?
Alors, tu avais un sujet, tu voulais nous parler du fait de pourquoi il nous faut une page personnelle. Donc, bon, a
C'est vrai,
priori,
en
moi, je
vrai, je
pense que
savais.
tu vas nous parler de
Non,
quelque chose de
je savais.
différent d'un profil
Et...
Twitter ou Facebook ou LinkedIn, c'est ça?
Complètement, complètement. Et effectivement, c'était un faux lancement puisque je savais de quoi on allait parler vu que c'est un sujet que j'ai proposé. ouais, en fait, je souhaiterais rebondir un petit peu sur ce sujet des pages personnelles dont on entend finalement assez peu parler, j'ai l'impression, et qui est, comme tu le dis, ouais, différent d'un profil Twitter, LinkedIn ou Facebook. Tout ça part un petit peu d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un, quand tu es dans une phase de recrutement, tu as par énorme justement des chercheurs, des recruteurs, hein, soit une enquête récente fait état de 70% des recruteurs qui vont aller regarder sur les réseaux sociaux, mais aussi une part encore plus importante sur les moteurs de recherche, Google notamment, pour voir un petit peu si voilà, le nom d'un candidat, il y a des choses qui ressortent. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a plus de la moitié de ces personnes, hein, qui finalement, ces recruteurs, qui peuvent refuser un candidat par rapport à un contenu qu'ils auraient trouvé sur un de leurs réseaux sociaux. Ça peut être un comportement, ça peut être des idées politiques potentiellement, ça peut être tout un tas de choses qui ne sont pas forcément avouables. Mais en tout cas, effectivement, ça va être des choses qui peuvent porter préjudice. Et du coup, on se rend compte que la présence en ligne, c'est quelque chose, voilà, ce qu'on appelle aussi l'e-réputation, c'est quelque chose de super important qu'il faut toujours avoir à l'œil, et qu'on soit en recherche d'emploi ou pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand je tape mon nom sur Google? Qu'est-ce qui remonte? Et là, tu peux te rendre compte que tu as peut-être des choses qui remontent que tu n'as pas forcément prévu d'exposer, ou peut-être des choses assez anciennes. Et du coup, il y a un vrai enjeu finalement de aujourd'hui, on a pas mal de réseaux sociaux qui proposent de mettre un lien vers un site. Mais en fait, voilà, il y a un vrai enjeu, je pense, d'essayer de mettre en avant des pages personnelles. C'est quoi une page personnelle? De manière très, très simple, c'est une page qui regroupe à un seul et même endroit tous les éléments que tu as envie de rendre visibles. Donc, ça peut être effectivement une courte bio, des projets sur lesquels tu as bossé, des choses qui te tiennent à cœur, des compétences, les liens vers tes différents profils sociaux. Et du coup, l'intérêt, en fait, y a plusieurs intérêts, le fait d'avoir une page de ce type-là. C'est con, mais ça fait un peu pro. Quand tu reçois un CV et que tu as quelqu'un qui met une URL de ce type-là, tu te rends compte qu'il y a quand même eu un travail sur l'irréputation, sur je tiens à mettre en avant certains projets, certaines expertises. Et ça, du coup, c'est une manière de rendre le truc un petit peu pro. Hein. Pour certains jobs, ça peut même être très pénalisant de ne pas avoir de présence en ligne. Je pense notamment à des designers, des graphistes, s'ils ont pas, ou même des développeurs, s'ils n'ont pas quelques liens, quelques références sur leur CV, ça peut être limite rédhibitoire, parce qu'en fait, ça montre que potentiellement, soit tu n'as pas travaillé sur des sujets à côté ou des sujets que tu souhaites valoriser, soit tu n'as pas eu le réflexe de les mettre en avant, et ça peut être un élément effectivement différenciant.
Oui, c'est, en parlant de différenciant, ça peut. Enfin, moi, je sais que toi aussi, t'avais fourni des conseils pour les alternants pour favoriser leur culture, leur embauchabilité, leur recrutabilité. Et c'est vrai que, enfin, moi j'ai un depuis très très longtemps, et je sais que ça peut faire la différence entre. Moi, je travaille en marketing digital, et donc forcément pour les personnes que je recrute, si elles ont un site ou un portfolio en ligne sur lequel elles mettent un lien vers leur projet, ça met des points en plus, parce que ça montre que au moins on s'est débrouillé pour juste aller acheter un nom de domaine, faire son petit site et proposer des choses. Donc c'est vrai, ouais, je te rejoins complètement. Ça peut être pour l'élément différenciant, c'est encore actuel. En 2021, c'est encore le cas.
Ah, et plus que jamais, en fait. C'est-à-dire que ça va vraiment te montrer des choses que tu ne pourras pas mettre dans un CV ou dans une lettre de motivation. Tu vas vraiment pouvoir. Moi, j'ai récemment recruté des graphistes, des web designers. Et en fait, c'est bête, mais ceux qui n'avaient pas de portfolio en ligne à me présenter, c'était quand même un point négatif, parce que à côté de ça, il y en avait certains qui avaient des choses hyper quali, hyper structurées à montrer, hyper variées, et qui montraient finalement un panel de ce qu'ils étaient capables de faire. Alors oui, je reconnais, hein, il y a des métiers qui sont peut-être un peu plus faciles à mettre en valeur que d'autres, parce que il y a une production concrète. Mais même nous, on pourrait imaginer notre podcast le mettre sur une page personnelle, parce que c'est un contenu qu'on juge pertinent, sur lequel on souhaite communiquer, dont on est fier. Et voilà, ça n'a pas forcément en fait vocation à remplacer ton CV. Ça peut parler de choses que tu fais à côté, mais dont certaines compétences peuvent en fait faire écho au job pour lequel tu postules. On peut se dire, par exemple, quelqu'un qui anime un podcast ou qui a une chaîne YouTube, c'est quelqu'un un minimum qui connaît les réseaux sociaux, qui connaît un peu les sujets tendances, qui sait s'exprimer potentiellement et qui est plutôt à l'aise avec la prise de parole. Et ça, en fait, ça peut te donner des informations sur des choses qui pourront te servir dans un job, même si ce n'est pas travailler dans le podcast. Donc ça, voilà, c'était un élément également important. Et puis, tout simplement, ça permet d'avoir une seule maison, un seul endroit d'accueil dans lequel finalement tu vas pouvoir héberger tout ce que tu fais, tout ce que tu as envie de rendre visible sur Google. Parce que ça, c'est vraiment un point hyper important. C'est à un moment donné, il y a un sujet de visibilité. C'est qu'est-ce que les gens, sur quoi les gens vont tomber quand ils vont taper ton nom sur Google. Et le plus tu auras travaillé cette présence en ligne et tu l'auras structurée, le moins, en fait, tu laisseras de la place à d'autres choses potentiellement que tu n'as pas forcément envie de voir apparaître. Ou tu pourras contrôler finalement, si tu t'en sors pas trop mal, ce qui apparaît finalement en première page de Google quand on tape ton nom. Et puis, le dernier argument, c'est que ça n'a jamais été aussi simple. Ça demande vraiment aucune compétence technique faire ce type de page.
Oui, finalement, tu as juste besoin du jus de cerveau, réfléchir quel lien tu veux mettre, comment tu les mets en avant. Mais finalement, techniquement, n'importe qui peut le faire, quoi. Et même depuis un téléphone.
Complètement, tu peux faire ça depuis n'importe quelle plateforme. Et tous ces liens-là sont en plus responsives, donc tu peux complètement les consulter en plus sur le mobile.
D'accord. Tu aurais des plateformes à nous conseiller?
Ouais, bien sûr, bien sûr. Du coup, j'en ai sélectionné quatre, quatre pour les auditeurs. Honnêtement, les quatre sont bien. Il y a quelques petites particularités, mais voilà, je vais vous expliquer un petit peu celles qui sortent du lot et celles qui sont originales et celles qui sont vraiment incontournables. Voilà, l'intérêt, c'est bien sûr, c'est d'en choisir une et puis d'aller dessus. Il n'y a pas vocation à en utiliser 24. Donc, la première, c'est Linktree. Linktree, en fait, c'est vraiment une solution leader sur le marché. Elle est très connue. Elle s'appelait auparavant, je crois, LinkedIn.io. Et en fait, elle permet, voilà, elle a une fonctionnalité un peu classique, c'est-à-dire qu'on peut mettre des liens, on peut mettre des vidéos, par exemple, qui sont sur YouTube. On peut même mettre un petit formulaire, par exemple, un formulaire d'inscription à la newsletter. Donc, ça te permet finalement d'avoir un endroit à la fois où tu présentes tes liens et potentiellement, tu peux mettre, voilà, si tu as de la production vidéo ou que tu souhaites récupérer des emails pour un sujet, bah, voilà, très facilement, Linktree, ça fait le job. Je le précise pas, mais toutes ces options ont des formules gratuites, donc tu peux vraiment l'utiliser gratuitement sans problème. Et puis certaines fonctionnalités avancées sont payantes. Donc voilà, c'est toi en fonction de ce que tu veux faire, mais en tout cas, vous pouvez commencer avec chacune gratuitement, il n'y a aucun problème, et les utiliser tout le temps gratuitement, il n'y aura pas de problème, juste quelques limites au niveau des fonctionnalités. Il y en a une autre que j'ai bien aimée, plutôt pour les gens qui sont dans le conseil, qui sont dans tout ce qui est tertiaire, le service et tout, c'est About Me, about.me, et tous les liens là aussi seront dans les notes. Celle-là, elle a les fonctions habituelles. Elle a une particularité que je trouvais assez intéressante, c'est qu'elle permet de gérer la prise de rendez-vous. Donc en fait, tu peux la raccorder avec des outils comme Calendly, qui te permettent de gérer ton agenda en ligne. Et donc potentiellement, bah, tu peux permettre, admettons que tu es je sais pas, t'es coiffeur à domicile, esthéticienne ou même médecin, hein, potentiellement, tu peux du coup directement avoir un lien qui permet de prendre des rendez-vous via ta page personnelle. Ça aussi, c'est une fonction bien pratique. Ça t'évite de monter un site internet juste pour ça. Donc ça, je trouve plutôt cool.
Écoute, merci. Mais sur celui-là, je viens de me rappeler que j'en avais créé un parce que About Me, c'est pour le coup, c'est assez vieux. Et je viens de me
Exactement.
connecter et mon compte est encore valide. J'ai encore ma place qui doit avoir 7 ou 8 ans où je ne l'ai jamais mis à jour. Donc c'est une bonne occasion. Merci. Je vais aller le mettre à jour avec des textes un peu plus récents et promouvoir ce podcast du coup.
C'était effectivement un des pionniers About Me. T'en as d'autres qui s'appellent Taplink. Alors Taplink, c'est un peu la Rolls, il permet une tonne de choses. Donc vraiment, il est très très complet. Donc là, c'est vraiment pour les power users. Pour te dire, hein, sur Taplink, tu peux t'intégrer à des messages instantanés comme WhatsApp ou Messenger. Tu peux même gérer du paiement. Donc on parlait tout à l'heure de la prise de rendez-vous. Potentiellement, tu peux même directement faire payer une personne sur un sujet. Admettons que tu fais du coaching ou ce genre de choses. Bah, en fait, tu n'as même pas besoin d'un site aujourd'hui. Tu fais un Taplink et tu gères toutes ces options-là dans une seule et même page, en plus des liens vers tes profils. Ça, c'est super bien. Et puis le dernier, un petit dernier pour la route, celui-là, c'est un peu mon chouchou. Il s'appelle Luma, LU.MA, tout simplement. Et celui-là, bah, pareil, il a certaines fonctionnalités qu'ont les autres, notamment la gestion des paiements. Tu peux avoir des pages pour tes événements. Par exemple, si on se disait qu'on avait un enregistrement live de ce podcast, tu pourrais promouvoir cette page-là directement avec une petite page événement, possibilité aux gens de s'inscrire, d'avoir les infos de connexion, que ce soit un Zoom, un Clubhouse ou autre chose. Et puis voilà, tu peux faire des choses assez sympas. Donc moi, je m'étais essayé à créer une page test là-dessus. Et franchement, voilà, le résultat est très quali, très simple. Ça demande zéro effort de développement. Tu as des templates et c'est que du paramétrage et très facile à mettre à jour. Donc vraiment, je vous encourage, si ce n'est pas déjà fait, à jeter un œil à ces options-là. Encore une fois, voilà, votre e-réputation nous remerciera.
Bah écoute, merci beaucoup pour ces. Moi, je ne connaissais pas du tout pour le coup, bah, à part About Me et Linktree, je ne connaissais pas les autres. Donc, je vais jeter un œil sur Luma pour voir ce que ça donne, quoi. Cool.
Eh ben, écoute, tu me diras ce que tu en penses. Du coup, sujet suivant, Rémi. Alors là, on va parler IA. On avait dit, hein, en introduction de ce podcast qu'on allait parler de plein de choses, de GAFA, d'IA, de trucs. Voilà, on y est, on est dans le dur. Et là, du coup, bah, en fait, c'est un sujet qui parle d'intelligence artificielle et plus particulièrement comment les intelligences artificielles ou l'intelligence artificielle ne nous aide pas à trouver un job. Ça, je trouvais que le sujet, là aussi, tu nous en as parlé dans une récente newsletter, hyper intéressant. Alors moi, j'étais un peu étonné comme ça en lisant le titre parce que je pensais que justement, l'IA, c'était la solution miracle pour un petit peu tout et que ça allait nous aider partout. Et là, tu nous dis qu'en fait, ça peut être une cause de problème.
Et oui. Parce que à l'origine, ça devait aider. Dans le cas qui nous intéresse, l'intelligence artificielle, elle avait pour but d'aider les recruteurs à gagner du temps dans leur sélection. On en a parlé un peu plus tôt. Bah, des fois, quand on reçoit plein de candidatures, ça va être difficile de trier. Et donc là, l'idée, c'était que avec certains mots-clés, certains types de profils, l'IA allait permettre de mettre en avant plus ou moins certains profils. Donc, pour rappel, LinkedIn, c'est le plus grand réseau social professionnel du monde. Il y a 740 millions d'utilisateurs. À l'origine, c'était vraiment l'endroit où il fallait être pour créer un profil professionnel. On y met toutes nos expériences, une jolie photo, et vous avez votre magnifique CV en ligne. Et de l'autre côté, bien sûr, vous avez tous les recruteurs. Eux, ils peuvent poster des annonces d'emploi et bien sûr chercher dans cette énorme CV tech la perle qui leur correspondra.
Ok, et du coup, en fait, excuse-moi, je réfléchissais à tout ça, 740 millions, c'est énorme. Bon, tout ça, en fait, chercher des CV, ça ressemble quand même à du travail humain. Qu'est-ce qu'elle vient faire, l'IA, là-dedans? Elle aide, par exemple, au tri des CV ou ouais. Autre chose?
Bah, écoute, tout à fait. Ce qu'on sait, pas forcément, moi je l'ai appris dans cet article, même si finalement, après réflexion, c'est complètement logique. Toutes les grandes plateformes de recherche d'emploi, Monster, peut-être Pôle emploi, enfin vraiment toutes celles qui proposent des offres, elles utilisent des algorithmes pour classer les candidatures. Le but, ça va être vraiment de faire gagner du temps pour proposer aux recruteurs que des profils qui leur correspondent a priori. Sauf que là, dans notre cas, c'est un petit peu gênant. L'intelligence artificielle de LinkedIn, elle proposait plus d'hommes que de femmes aux recruteurs.
Tiens, au passage, tu sais ce que c'est que ces, comment on appelle ces outils, ces applications qui sont utilisées par les recruteurs justement pour trier et gérer tous ces CV?
Ah non?
On appelle ça des ATM, des Applicant Tracking System ou quelque chose comme ça. Donc en fait, c'est vraiment une catégorie de logiciels d'applications qui n'ont que pour but justement de sélectionner, de stocker et de référencer des candidatures. Et donc, du coup, en fait, comment ça s'est passé pour LinkedIn? Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cette histoire, en fait, de profil masculin qui remontait, en fait, avant les profils féminins? C'est une histoire de machine learning?
Exactement. Parce qu'en fait, sur ce qu'on appelle communément l'intelligence artificielle, c'est vraiment du machine learning. C'est-à-dire qu'on va donner une machine, un ordinateur performant, une quantité énorme de données. La machine va l'ingérer et grâce à ça, elle va réussir à créer des liens entre ces différentes données pour voir des matchings, des éléments qui permettent de lier un avant et un après, en fait, des causes et conséquences. Et la grande difficulté, et à laquelle font face finalement la grande majorité des créateurs d'intelligence artificielle, c'est que ces données, elles sont limitées, forcément, elles sont limitées à la base de données, aux données auxquelles vous avez accès. Parce que vous allez pouvoir, on va le voir dans le cas de LinkedIn, vous avez accès uniquement aux données qui sont dans LinkedIn, mais pas celles qui se passent dans l'entreprise qui va recruter, par exemple. Donc, si dans votre ensemble de données, vous avez des biais, l'IA, elle va les prendre telles quelles, et donc elle va les répéter et les amplifier.
Du coup, c'est ce qui s'est passé avec LinkedIn ?
Exactement. On a un fait avéré dans le recrutement, c'est que les hommes ont plus confiance en eux que les femmes, et donc ils vont avoir tendance à postuler à des postes beaucoup plus seniors que ceux qu'ils ont actuellement, sans forcément avoir les capacités pour ces postes-là. Donc l'intelligence artificielle, elle a vu ça. Elle a vu que beaucoup plus d'hommes postulaient à des postes plus seniors qu'eux. Donc elle s'est dit, c'est normal. Donc, ce qu'elle a fait, c'est que je vais proposer moins de postes seniors aux femmes, vu que c'est les hommes qui les postulent plus. Et donc, ce résultat, il montre bien que avec les données, on peut faire plein de choses. Mais le puzzle des données, il est incomplet. Et donc, ça va être difficile de sortir des choses intéressantes. Dans ce cas-là, les données, j'imagine qu'elles étaient uniquement dans LinkedIn et que l'algorithme ne voyait que les gens qui postulaient aux données, mais ils ne voyaient pas à la fin ce qui se passe à la fin. En fait, tous les profils qui vont être finalement recrutés par l'entreprise et qui auraient pu donner plus de valeur, et ça se trouve, ça aurait été plus de femmes qui sont recrutées au poste senior, par exemple. Donc, en fait, c'est ça qui est gênant, quoi. Si LinkedIn n'y a pas accès, si l'algorithme n'a pas accès à ces données-là, il peut pas les deviner.
Du coup, en fait, est-ce que le problème a été résolu par LinkedIn ?
Oui. Et tu ne devineras jamais ce qu'ils ont fait, ben, sauf si tu as lu l'article. Mais ils ont créé une autre intelligence artificielle qui va contrôler les biais de la première. Donc ça, je trouve ça assez marrant.
C'est magnifique.
Et voilà, l'intelligence qui va checker l'intelligence, qui va checker l'intelligence. Donc c'est assez marrant.
Bref. Bah écoute, c'est une belle histoire qui termine pas trop mal,
ouais, ça va.
Mais qui nous, voilà, qui nous rappelle quand même que finalement, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est quand même... son efficacité va être beaucoup fonction des données qu'elle utilise en référence, mm-hmm. et que ces données peuvent avoir des biais, et que si ces biais ils sont pas challengés en entrée, bah, ça peut avoir des résultats assez compliqués en sortie. On le voit sur plein de choses au niveau de la reconnaissance d'images notamment. Enfin, y a plein d'exemples de fail d'IA, mm-hmm. Notamment parce que des échantillons de données utilisés ne sont pas exemptes de biais.
Exactement. Et donc, alors, petite parenthèse, et comme, enfin, pour ceux qui cherchent un emploi, sachant que tout est géré quasiment par des algorithmes, il ne faut pas hésiter à justement essayer de rechercher les mots-clés dans les offres pour lesquelles vous voulez postuler, pour les rajouter dans votre CV, les éparpiller un peu partout, pour vous faire remonter dans l'algorithme et avoir plus de chances de candidater. C'est un peu... Comme un site internet voudrait remonter en première position sur Google, bah vous aussi, il faut mettre des mots-clés spécifiques dans votre profil pour pouvoir remonter et arriver jusqu'au recruteur.
C'est vraiment de la ouais, c'est du SEO pour le CV, en fait.
Hein. Tout à fait.
Et il faut être vigilant, justement, quand y a des termes qui ont plusieurs manières de s'écrire. Par exemple, on parlait de l'intelligence artificielle là. Bah, c'est sûr que si tu marques intelligence artificielle, tu peux remonter, mais si tu tapes IA, oui. Là, tu es sûr d'être capté, quoi. Mm-hmm. En fait, tu as plein d'exemples comme ça au niveau pro. Et donc, voilà, il y a des buzzwords, hein, c'est digital, bim, tu as plein de trucs qui vont remonter, marketing, bon, bref, tu as plein. Et donc, effectivement, faut dans la phase de recherche, et puis également, il faut utiliser les mots qui sont utilisés pour la job description. Voilà, c'est des indices aussi de quels sont les termes à utiliser quand il y a plusieurs termes possibles pour décrire une compétence, par exemple.
Mmh, ouais, tout à fait. Alors, donc, sujet suivant, on va vous présenter un outil.
Ouais, alors cette semaine, c'est pas vraiment un outil. Donc, tu vois, on est à deuxième épisode où on parle de ça et déjà, je tords les règles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas un outil, c'est une fonctionnalité. Et c'est une fonctionnalité qui va changer la vie, je pense, j'espère, de beaucoup de personnes, potentiellement des millions de personnes. Hein. Je pèse pas mes mots à partir de la rentrée prochaine.
Ah, donc ça va pas être quelque chose qui nous aide à trouver le meilleur itinéraire pour pas avoir de bouchons cet été, a priori.
Non, ce n'est pas non plus une application qui va te permettre de bien étaler la crème solaire ou de trouver le meilleur spot autour d'une piscine. Non, en fait, c'est beaucoup moins sexy que ça. Et pour autant, je trouve ça hyper, hyper intéressant. Et ça concerne en fait la prochaine version d'iOS et d'iPadOS, donc les versions d'exploitation des iPhone, iPad que nous sort Apple tous les ans, une nouvelle version logicielle. Hein. Et il y a une fonctionnalité, donc ça a été annoncé il y a quelques semaines, hein, iOS 15. Et il y a plein de fonctionnalités qui ont été annoncées, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est pas le job du podcast, mais par contre, il y a une fonctionnalité que j'ai retenue qui, je pense, va potentiellement changer vraiment la manière dont certaines personnes utilisent leur téléphone. Je ne vais pas te l'apprendre, hein, les smartphones, on les utilise, on en a tous dans la poche, et en vrai, ils ne sont pas si smart. Et c'est même plutôt trop des téléphones, puisqu'on n'appelle plus beaucoup avec. Mais du coup, c'est, voilà, on a gardé le terme smartphone. Et en fait, il y a un truc avec les smartphones, c'est qu'en vrai, c'est assez bête, un smartphone. Smartphone, ça va faire ce que tu lui dis de faire. Tu veux ouvrir Twitter, bah, t'appuies sur l'appli. Tu veux prendre une photo, t'appuies sur l'appli. Et en fait, finalement, il y a assez peu d'intelligence. Peut-être un des trucs les plus intelligents sur ton téléphone, c'est la météo qui va s'afficher en fonction de ta localisation, quoi. Mais finalement, c'est pas très très adaptatif. Mmh. Et pour autant, bah, y a une nouvelle fonction dans iOS 15 que j'ai trouvé hyper intéressante qui s'appelle le mode concentration. Alors, le terme est pas du tout représentatif de ce que ça représente. C'est en fait l'évolution d'une fonction qui existe depuis quelques années qui était le mode ne pas déranger. Le mode ne pas déranger sur les appareils Apple, c'était en fait une sorte de mode qui dit, voilà, là, attention, je suis en train de faire un truc, je suis en réunion ou je suis en train de dormir. Ou... Du coup, mollo sur les notifs, mollo sur les appels et du coup, ne pas être trop sollicité. Typiquement, quand tu es en réunion, éviter que ton téléphone sonne. En fait, voilà, c'est un mode qui est représenté par une petite lune qui te permettait justement de changer quelques comportements de notification dans un contexte particulier. Et en vrai, l'histoire des contextes est hyper intéressante et c'est tout l'enjeu de cette fonctionnalité. C'est qu'en fait, dans une journée type, enfin, je ne sais pas si c'était comme moi, mais j'évolue dans plein de contextes différents. Je vais dormir, je vais être au travail,
je
vais
être dans les... Je commence ma journée par dormir.
Techniquement, je...
La petite sieste de 8 heures.
Les 6 premières heures de ma journée sont passées à dormir, donc je vais dans l'ordre.
C'est vrai.
Je vais aller dans les transports, je vais aller peut-être faire du sport, je vais peut-être en train de regarder un film. Bref, je vais passer en fait par, je vais appeler ça des contextes différents. Et en fait, dans chacun de ces contextes, je ne vais pas forcément avoir le même usage de mon téléphone. Dans certains, je ne vais même pas du tout avoir d'usage de mon téléphone. Mais typiquement, quand je suis au travail, je ne vais peut-être pas avoir besoin d'écouter des podcasts ou de faire des choses. Et à l'inverse, quand je suis dans les transports, je vais peut-être avoir d'autres activités. Et en fait, l'idée de ce mode concentration, qui, je le répète, ne porte pas super bien son nom, c'est finalement d'être capable de paramétrer, en fonction de ces différents contextes, des comportements différents. C'est quoi un comportement? C'est vraiment les notifications que tu vas pouvoir recevoir. Donc, tu vas autoriser certaines applis à te notifier ou pas. Mm-hmm. Par exemple, quand je suis en réunion, bah, je n'ai pas envie, par exemple, de recevoir toutes les notifs WhatsApp. Mais par contre, mes mails du boulot peuvent être intéressants. Tu peux dire, par exemple, ou mes calendriers, mes événements d'agenda. Tu peux choisir donc quelles applis te notifier. Tu peux choisir quelles personnes sont autorisées à te contacter. Mm-hmm. Donc, du coup, tu reçois directement voilà, des notifs de ces personnes-là et seulement de ces personnes-là si tu le définis. Et puis tu vas pouvoir aussi même choisir personnaliser un écran d'accueil carrément. Depuis l'année dernière, en fait, on peut avoir plusieurs écrans d'accueil sur iOS et puis surtout on peut masquer plus ou moins des écrans. Et ben en fait la fonctionnalité qui s'appelle concentration permet de définir tout ça. Mmh. Et donc moi typiquement je l'ai testé ces derniers jours et je vais te donner un exemple de comment ça peut être utilisé, en tout cas comment ça marche. J'ai créé par exemple un mode sport. Quand je vais au sport, en fait, j'ai pas besoin de mes notifs WhatsApp, j'ai pas besoin des notifs de mon agenda, j'ai pas besoin que la plupart des gens puissent me joindre. Par contre, ce que j'ai besoin, c'est potentiellement d'avoir les raccourcis vers mes podcasts, vers mon appli de sport, et puis peut-être effectivement Spotify par exemple. Et là, du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un écran d'accueil qui a les widgets et tous les raccourcis dont j'ai besoin vers ces applications-là. Et uniquement ça, donc c'est vraiment un écran d'accueil qui ne me servira à rien le résultat de la semaine. Et j'ai choisi, et c'est ça qui est intéressant dans cette fonctionnalité, c'est que tu peux planifier son déclenchement. Tu peux planifier son déclenchement par rapport à une heure, tu peux planifier son déclenchement par rapport à une application qui se lance, par exemple, ouais. Ou tu peux planifier son lancement par rapport à une localisation. Et donc, en fait, tu peux dire que quand tu arrives à la salle de sport, automatiquement, ça va lancer cet écran d'accueil avec tous ses paramétrages.
D'accord.
Okay. Et voilà, du coup, je l'ai expérimenté et ça marche hyper bien. Ça te permet vraiment de changer de contexte, d'avoir un téléphone qui s'adapte complètement à ce que tu es en train de faire sans avoir à lui dire qu'est-ce que tu es en train de faire. C'est ça que j'ai trouvé ça intéressant. Et donc, bah voilà, là, j'ai testé pour le sport et ça se déclenche tout seul et c'est un côté magique. Bon, ça prend un petit peu de temps, je dirais 3-4 minutes pour le mettre en place. Mm-hmm. Mais après, c'est intelligent et du coup, ça, tu n'as plus à t'en soucier. Et ça vraiment te change ton usage du téléphone tout au long de la journée et pour ne t'afficher et te notifier que ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin.
D'accord. Et moi, le frein que je vois là-dessus, c'est qu'il va falloir réfléchir à chaque fois à chaque usage que tu pourrais avoir. Mais est-ce qu'il y aura la possibilité d'en télécharger, par exemple, quelqu'un qui fait sur le site qui s'appelle If This Then That qui fait un petit peu le même genre de choses mais pour les applications, genre quand vous recevez un email, votre lampe connectée va s'allumer par exemple, et on peut télécharger des recettes, ce qu'ils appellent des recettes de quelqu'un qui l'aura fait. Est-ce qu'il y aura ce type de choses? Par exemple, si moi j'ai la flemme de mettre en place mon mode sport, est-ce que je pourrais piquer le tien?
Écoute, en fait, non, pourquoi? Parce qu'en fait, on peut imaginer que chacun a des recettes particulières. Je te disais tout à l'heure qu'il y a une dose de personnalisation très forte, puisqu'en fait, en fonction de tes contacts, tu vas dire telle personne peut te contacter, en fonction des applications que tu as d'installer, tu peux paramétrer. Et donc tout ça, finalement, c'est difficile à comment dire, c'est difficile de faire des templates de ça. Par contre, quand tu installes iOS 15, il te propose déjà un certain nombre de modes qui sont préexistants. Et en fait, après, tu n'as plus qu'à les paramétrer. Tu as un mode, par exemple, ne pas déranger qui existait déjà. Tu as un mode repos. Là, tu peux imaginer, effectivement, tu es peut-être en train de regarder une série ou juste en train de dormir. Tu as un mode sport et tu as un mode temps pour soi. Donc, temps pour soi, ça peut être, effectivement, tu es en train de lire. Et puis, tu as un mode travail, bien entendu. Et puis, tu peux créer de nouveaux modes très facilement. Et tu peux switcher d'un mode à l'autre manuellement ou planifier finalement leur lancement. C'est là que je trouve qu'il y a une vraie intelligence, c'est quand tu joues un peu avec ça, et effectivement, tu peux te dire ton mode travail, c'est typiquement quand tu arrives sur ton lieu de travail. Ou c'est tel toutes les semaines entre 9h et 18h, il s'active et puis le reste du temps, ça se désactive. Donc en fait, il y a juste un petit setup initial. Mais après, ça coule en fait. Et puis, tu peux itérer en fonction de tes besoins, rajouter des applis. Donc, non, il n'y a pas de template voilà, c'est pas prévu pour ça. Par contre, tu as déjà des modes préexistants qui vont te mâcher le travail. Et le paramétrage est quand même super intuitif et qui permet très facilement, en quelques minutes vraiment, de faire les paramétrages qui vont te permettre d'avoir ton mode concentration. Donc, voilà, ça, c'est une fonctionnalité. Tu vois, il n'y a pas souvent des fonctionnalités... Je pense qu'ils peuvent changer ton usage du téléphone. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont peut-être pas prendre le temps d'aller paramétrer ça. Mais je pense qu'en vrai, tout le monde potentiellement a besoin de ça parce qu'on passe tous de plusieurs contextes dans une journée. Et voilà, cette fonctionnalité, si elle est bien vendue, je pense que c'est un vrai game changer pour l'usage qu'on peut se faire de nos appareils mobiles. Et je ne l'ai pas précisé, mais si tu es un peu dans l'environnement Apple, en fait, ces modes-là, ils vont te suivre dans tous tes appareils. Donc, tu paramètres le truc sur ton iPhone, ça va te suivre sur ton iPad et sur ton Mac. Ça va te suivre sur tout ton... Ça va pas être cassé par l'appareil que tu utilises.
Ah, c'est pas mal ça. Mais c'est ce qu'on attend en même temps, j'allais dire, d'Apple, mais c'est chouette. C'est ça la force d'Apple aussi, c'est qu'ils sont tous reliés les uns aux autres, enfin tes appareils. Donc, très bien. Bah, écoute, ça m'a donné envie de... Donc là, pour l'instant, c'est uniquement accessible sur la version bêta de iOS 15.
Exact, que je ne recommande pas, bien entendu, d'installer parce que elle est quand même... Ouais, t'as des petits problèmes d'autonomie, tout ça. Et puis voilà, on va être tous à une période où on bouge pas mal et on a pas envie forcément d'avoir un truc instable. Donc, je ne recommande pas, mais en tout cas, voilà. Maintenant, vous êtes prévenus. Quand ça sort, vous installez ça et vous dites ce que vous en pensez.
Eh ben, écoute, j'étais chaud pour installer la bêta et puis là, en fait, tu m'as refroidi. Donc, je vais peut-être attendre septembre, octobre. Alors, on va passer l'été tranquille.
Je l'ai sur tous mes appareils. Hein, ouais. Mais ça marche, mais bon. Ok. Je n'ai pas pressé.
Bah écoute, merci. Merci pour cet outil qui n'est pas un outil, mais une fonctionnalité. Ouais, j'attends de voir ça. Moi, j'aime bien bidouiller ces genres de trucs. Si tu as fait ça, alors ça fera ça. Donc, je testerai. Merci beaucoup. Et chers auditeurs, merci pour votre attention. On est arrivé à la fin de ce troisième épisode. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcasts parce que les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Donc, si vous mettez directement 5 étoiles, un petit commentaire qui va bien, ça nous permettra de remonter et ça nous fera très plus, ça nous touchera beaucoup.
Exactement. Et puis, bien entendu, d'ici là, si vous voulez recevoir chaque nouvel épisode directement dans votre boîte mail, vous allez sur encoreunpodcast.tech. encoreunpodcast.tech. Et là, il y a tous les liens. Il y a l'inscription à la newsletter. Donc, à chaque fois qu'on sort un épisode, il y a un mail. Et puis, il y a également des liens vers toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez vous abonner, les plateformes de podcast. Et puis, on est également sur YouTube.
Exactement. Sur la chaîne, vous tapez Encore un podcast tech et vous nous trouverez. Et vous pouvez également nous abonner à nos newsletters.
Yes. Alors, la mienne, c'est gregtaieb.substack.com.
Et moi, c'est L-E, donc lebrief.tech, lebrief.tech.
Et bien entendu, il y a tous les liens.
Voilà, exactement. Vous aurez du contenu pour lire, voir, écouter. Vous allez avoir de quoi passer l'été. Vraiment tranquille.
Exact. Bah, écoutez, merci en tout cas et à très bientôt pour le prochain épisode.
À très bientôt. Merci Greg.